Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On parle de Mars en compagnie de Jean-Pierre Bibring, professeur à l'Université Paris-Sud et astrophysicien à l'IAS, Institut d'astrophysique spatiale. Est-ce que c'est, Jean-Pierre Bibring, Mars, une planète dont on peut dire qu'elle a bien démarré, mais qu'elle a mal terminé ?
Je ne sais pas si elle a bien démarré, elle a démarré comme tout le monde. Je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que tous les objets du système solaire ont démarré au même moment, sur un même point de l'univers, d'un même matériau. Il y a une incroyable unité d'origine, c'est-à-dire peut-être ça le résultat le plus frappant de 40 ans d'exploration spatiale, de comprendre que tous les objets planétaires, le Soleil lui-même d'ailleurs, et les petits corps, les astéroïdes, les comètes, tout ça, initialement, c'était pour l'essentiel la même chose, c'est-à-dire le même matériau, il y a 4,5 milliards d'années. Et ce qui est absolument incroyable, c'est le contraste entre cette très forte unité d'origine et ce que l'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant qu'on a été voir à peu près tous les objets au moins une fois, en tout cas les gros, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et ce qui pose vraiment question, c'est qu'est-ce qui fait l'évolution d'une planète ? Qu'est-ce qui fait que des objets qui ont initialement la même origine, après 4,5 milliards d'années, se retrouvent dans un tel état de diversité ? Bien sûr, le plus complexe, petit d'entre eux, c'est la Terre. La Terre est peut-être aujourd'hui l'objet le plus compliqué qu'on a jamais trouvé dans l'univers. C'est toutes les forces que l'on connaît de la physique jouent pour expliquer que de ce même point d'origine, il est aujourd'hui, comme on le voit, avec l'ensemble des forces qui travaillent pour faire tout, y compris du vivant. Mais tous les objets ont finalement une évolution distincte. Et ce qu'on essaye de faire dans notre domaine, c'est d'essayer de comprendre précisément ce que sont les moteurs de l'évolution, qu'est-ce qui, dans les conditions initiales, a fait que des objets ont pu avoir des trajectoires différentes, et qu'est-ce qui, dans le moteur de l'évolution planétaire, peut expliquer qu'aujourd'hui, ils sont tous différents. Alors, pour comprendre ça, bien sûr, l'objectif majeur, c'est de comprendre ce que c'est que la Terre. Donc, qu'on ne se masque pas les choses. Quand on va regarder les autres objets, c'est justement pour mettre en évidence la diversité des objets, pour comprendre les spécificités de la Terre, qui sont énormes. Et il y a même une urgence là-dessus, puisque ce que l'on veut, c'est pas simplement par curiosité comprendre comment fonctionne notre objet, c'est qu'on a besoin de le comprendre, étant donné que l'homme est capable actuellement de modifier, au moins pour l'atmosphère et la biosphère, les conditions d'environnement au point que la question se pose même de mettre à bas tous ces milliards d'années d'évolution. Donc on essaye de comprendre ce qui fait l'évolution d'un objet planétaire. Et c'est vrai que dans cette démarche, le plus efficace maintenant, le plus fécond, c'est ce qu'on appelle la planétologie comparative, c'est-à-dire d'essayer comment de même processus ont pu opérer différemment sur des objets distincts pour essayer de comprendre ce que sont les vrais mobiles de l'évolution planétaire. Vous savez que dans le passé, on pensait que, d'ailleurs on a été un peu plombé par cela, que ce qui fait la caractéristique des planètes, c'est justement d'être planétaire, c'est-à-dire d'être dans le champ du Soleil. Il faut dire que c'était tellement long d'obtenir ça, c'était des siècles, il y en a qui sont morts, hein, pour avoir essayé de comprendre que ces objets que l'on voit qui se distinguent des étoiles parce qu'ils sont dans le champ d'une étoile, le Soleil, ça nous a tellement plombé, ça a été tellement compliqué que pendant très longtemps après, les gens étaient convaincus qu'effectivement, l'originalité de ces objets-là, c'est d'être dans le champ de cette étoile maître. Et à cause de ça, on a été convaincus que finalement, c'est la distance pour l'essentiel à l'étoile qui gère l'évolution. Et donc, si on est plus près, si on est plus loin, eh bien, ça va faire des évolutions distinctes. Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que bien sûr que la distance à l'étoile compte, mais elle compte pour l'essentiel, je dirais très peu. Pour ce qui est de la machine planétaire, elle ne compte même pas du tout. Or, une grande partie des propriétés, même des propriétés atmosphériques, sont gérées non pas par le fait que l'énergie principale, c'est l'énergie solaire, mais par les sources internes d'énergie, qui sont essentiellement de la radioactivité, qui ont à voir avec la composition de cet objet initialement, et la manière dont cette composition a pu jouer compte tenu de la taille de l'objet sur l'évolution. Tout ça pour dire que les objets planétaires sont des objets très complexes, que la démarche de planétologie comparative est une des plus fécondes, et que quand on essaye de regarder comment chaque objet aide, contribue à nous faire comprendre cette histoire, la Lune nous renseigne essentiellement sur le premier milliard d'années, parce que depuis lors, pour l'essentiel, rien ne s'est passé sur la Lune, Mars a un rôle très particulier. Et son rôle particulier, probablement, il le doit à sa taille, beaucoup plus qu'à sa place dans le système solaire. Mars est suffisamment grande pour avoir connu à peu près toutes les étapes d'une évolution planétaire, y compris des moments où c'était un objet très intense, très actif, où il y avait, par du volcanisme, on en reviendra, par beaucoup de manifestations de surface, on voit que ce qui se passait à l'intérieur a vraiment géré, modelé l'activité et ce qui est devenu cette planète. Mais elle est suffisamment à la fois peu massive par rapport à la Terre, qui elle est toujours active, pour que cette activité ait cessé dans le temps progressivement. Et aujourd'hui, on est probablement en présence d'un astre qui, du point de vue de sa géologie de surface en tout cas, est un astre mort. Et comme elle est peu active et qu'elle n'a pas été très fortement dans le passé, La particularité de Mars, c'est que non seulement elle a vécu toutes les étapes de l'évolution planétaire, mais elle n'a pas au cours du temps remis à zéro la mémoire de ces étapes. C'est-à-dire que si on regarde bien aujourd'hui, on peut lire à peu près la succession de tout ce qui a jalonné l'histoire d'un objet comme la Terre. Alors que bien sûr, la géologie terrestre a remis à zéro tellement de choses que c'est très difficile en observant la Terre aujourd'hui de savoir ce qu'elle était dans le passé.
C'est ce qui fait le succès en fait de l'observation spatiale, c'est-à-dire qu'on a toutes les traces à la surface de Mars de cette histoire qui s'étale sur 4 milliards et demi d'années.
Oui, c'est-à-dire que seul le spatial permet d'avoir accès à ça parce qu'il faut aller sur place et être capable de sonder l'atmosphère, le sol et le sous-sol, donc on ne peut pas le faire depuis la Terre pour l'essentiel. Mais ce qui est extraordinaire pour Mars, c'est qu'effectivement, par rapport aux autres objets pour lesquels le spatial est aussi une nécessité, qu'on peut en principe avoir accès à toutes ces étapes. Et c'est ça qui fait la force du programme et des énormes programmes qui sont en place aujourd'hui, qui quelque part dépassent en importance les programmes d'exploration de la Lune, même des années 60 et 70. L'intérêt majeur de cette planète Mars, c'est que non seulement elle donne à lire toute l'évolution, mais il n'est pas exclu que dans le passé, les mêmes processus qui ont conduit à l'apparition du vivant sur Terre aient pu éventuellement conduire aussi à l'apparition du vivant sur Mars, même d'une manière plus forte encore. On est convaincu que si ça a pu se passer ailleurs que sur Terre dans le système solaire, c'est sur Mars que ça s'est passé. Et vraisemblablement, surtout avec les découvertes actuelles, on est à peu près convaincu que si cette émergence a eu lieu, on sait où et comment la rechercher maintenant. En d'autres termes, Mars est peut-être l'objet le plus fécond pour nous apprendre si ce passage de l'organique au vivant, dont on ne sait toujours pas comment il s'opérait sur Terre, a pu marcher ailleurs que sur Terre dans le système solaire. Et partant, ça nous dira en particulier si ailleurs dans l'univers ça a pu se faire.
Alors vous êtes responsable d'un instrument qui s'appelle Omega à bord de la sonde européenne Mars Express, donc en orbite autour de Mars depuis 4 ans. C'est un instrument qui vous a permis aujourd'hui d'annoncer que vous pouviez quelque part tirer un fil qui est le fil historique divisé en grandes étapes, en grandes ères géologiques de l'histoire de la planète. C'est une histoire qui commence il y a 4 milliards et demi d'années à peu près.
L'histoire, bien sûr, commence avec la formation de cette planète. Donc, elle a commencé effectivement il y a 4,5 milliards d'années. La force de notre instrument, je dirais, on l'a conçu comme ça, si on peut dire, mais les succès dépassent vraiment ce qu'on imaginait, c'est que pour la première fois, on est capable à distance d'avoir accès à la composition de ce qu'on regarde. Pour l'instant, il n'y a pas d'instrument sur Mars qui était capable à ce point de coupler l'observation par les images, les structures que l'on voit, le fait qu'il y ait des ravins, qu'il y ait des cratères, etc., les structures géomorphologiques, comme on dit, à la composition de ces unités-là. Or, on le voit bien sur Terre, si on n'avait que des structures, mais qu'on ne savait pas de quoi étaient faits, en particulier les roches ou les glaces ou l'atmosphère, c'est extrêmement peu d'informations dont on disposerait pour essayer de reconstituer une histoire. Pour la première fois,
on n'en savait rien avant.
Pour l'essentiel, ce que l'on savait de la composition était extrêmement limité parce qu'on n'avait jamais été capable d'envoyer des instruments pour le faire. Parce que c'est des instruments très compliqués. Mesurer à distance une composition n'est pas quelque chose de simple. On peut le faire quand on se pose quelque part. Alors, on a des instruments d'analyse qui sont dérivés de tout ce qui est la microscopie de laboratoire, qui font que là où on se pose, on peut mesurer la composition d'un sol. Mais remonter de là à la composition globale d'une planète, c'est une affaire extrêmement plus compliquée. Et donc, pour la première fois, on a été capable de le faire. Les Américains avaient déjà essayé d'envoyer des instruments pour faire cela. Essentiellement, ça fait par spectroscopie à distance. Mais dans un domaine de longueur d'onde, ils l'avaient fait où, en fait, la sensibilité est assez piètre et ça ne marchait pas vraiment bien. Pour la première fois, on a été capable de construire un instrument qui travaille essentiellement dans ce qu'on appelle le proche infrarouge, dans la longueur d'onde juste au-delà du visible. Mmh. Et il se trouve que ce domaine-là, c'est un domaine où l'essentiel des roches, on sait bien que dans le visible, toutes les roches sont grises, c'est très difficile dans le visible de savoir la composition d'une roche uniquement en la regardant, parce qu'elles ont toutes à peu près la même couleur. Dès lors qu'on regarde dans l'infrarouge, alors les différents constituants, selon que ça soit des carbonates ou des silicates ou des sulfates ou différentes, plus ou moins hydratés, alors tout d'un coup, ça va donner des couleurs spécifiques. Ces couleurs de l'infrarouge sont extraordinaires parce qu'elles permettent de révéler réellement profondément la composition de ce qu'on est en train de regarder. Et donc, c'est ça qu'on a construit. C'est un appareil très compliqué. Il y a 3 spectromètres, il y a 2 télescopes, il y a des machines cryogéniques pour la première fois dans l'espace. Enfin, c'est vraiment un instrument très compliqué. Grâce à cela, on a à distance la composition qu'on est capable de coupler à l'imagerie elle-même, c'est-à-dire qu'on couple imagerie et spectroscopie.
Et que raconte la présence de ces roches-là, les conditions dans lesquelles elles se sont formées ?
Voilà, c'est que quand on a une roche, ou que ce soit, le fait qu'on ait une roche, veut bien, ça trace le processus de la formation. Si vous avez une roche qui est un carbonate quelque part, si vous avez un calcaire en Champagne ou dans les Baux-de-Provence, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'à un moment donné, à cet endroit-là, le gaz carbonique de l'atmosphère était capable de se dissoudre dans l'eau et de précipiter sous forme d'une roche sédimentaire très particulière. Le fait de trouver un carbonate quelque part vous raconte les constituants qui étaient là et l'environnement à ce moment-là. Ça permet de vous dire qu'il y avait de l'eau liquide, que l'eau est partie, que vous avez à cet endroit-là accès au fond de ce qu'était une mer ou un lac dans le passé. On a énormément d'informations à travers la composition d'une roche. Si vous avez une argile, que va vous dire l'argile? C'est qu'à un moment donné, une roche volcanique ou une roche basaltique a été lavée par de l'eau et la composition de votre argile va vous dire le type de lavage qu'il a pu y avoir. Est-ce que c'est un lavage rapide, acide, basique? Ça vous donne énormément d'informations sur tout l'environnement de ce moment-là. Donc, on le sait bien sur la Terre, on reconstitue essentiellement l'histoire de la Terre à travers la composition des minéraux que l'on a, parce que les minéraux, à nouveau, nous donnent la dynamique de formation et l'environnement de la formation. Le faire sur Mars, en couplant les constituants minéralogiques à ce que l'on voit, est-ce que c'est un terrain ancien, est-ce que c'est un terrain raviné, est-ce que c'est un terrain où il y a des écoulements, est-ce qu'il y a un terrain cratérisé, nous permettent de dire, au moment où sont apparues ces structures, quelle était la composition. Et c'est ça qui est très fort, c'est que parce que Mars a été à la fois a subi des événements très importants, mais n'a pas effacé cette mémoire, on peut voir des grandes unités géologiques, quelles que soient les échelles que l'on regarde, depuis des échelles de centaines de kilomètres jusqu'à des dizaines de kilomètres, on a un appareil qui peut descendre jusqu'à quelques centaines de mètres, on voit des unités géologiques dont la composition est directement corrélée à la structure que l'on voit. Et ça, ça nous permet immédiatement, enfin immédiatement, c'est peut-être un peu rapide de le dire, mais ça nous permet de mettre dans le contexte historique les unités que l'on voit et donc le climat même martien à certains moments.
Avec un avantage certain qui est qu'il n'y a pas eu sur Mars de tectonique, de recyclage du matériau et du manteau comme sur la Terre. Donc ça veut dire qu'il y a là toute l'histoire qui est résumée.
Il y a eu des événements tectoniques, il y a eu des événements magmatiques, mais on les voit. Et on voit la superposition d'entre eux. Parce que ce qu'il y a de fort, c'est que les événements récents n'ont pas effacé les événements anciens. Et donc on peut effectivement voir juxtaposer l'ensemble des événements qui ont jalonné l'histoire de cette planète depuis 4,5 milliards d'années. Et bien sûr, une des choses qui nous intéressait beaucoup, c'est de savoir, par rapport à cette question de l'émergence du vivant, est-ce que l'on peut savoir si dans le passé, il a pu y avoir de l'eau liquide, et pas seulement de l'eau liquide en soi, mais de l'eau liquide pérenne, stable. Parce que de l'eau à l'état liquide, on peut toujours en fabriquer. Mais si vous voulez que la vie se développe, il ne faut pas simplement qu'il y ait de l'eau liquide, il faut que l'eau liquide soit là pour de longues durées. C'est la stabilité, la durabilité, la pérennité de l'eau qui est importante. Et de ce point de vue-là, les minéraux, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que les minéraux, pour se former, ont besoin de temps, eux aussi. Si vous faites simplement couler de l'eau sur une roche, quand l'eau s'évapore, vous n'aurez plus de traces de l'eau dans votre roche. Mais si l'eau lessive votre roche pendant très longtemps, vous aurez une transformation de votre roche qui fait que cette roche sera hydratée. Et même si l'eau disparaît, l'eau qui aura été bloquée dans la matrice même de cette roche va perdurer. Et même si dans 1000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, vous observez cette roche, elle aura encore la signature du fait qu'à une époque, il y a 1000 ans, 1 milliard d'années, elle aura été lessivée par de l'eau.
Alors ce sont ces signatures que vous avez mises bout à bout pour regarder une histoire dynamique, une évolution de l'histoire de Mars. On peut dire que ça démarre à une première grande époque où, ce que vous appelez vous l'âge des argiles, on va voir en quoi les argiles sont importantes pour raconter ça, une sorte de planète qui ressemble peut-être de par l'atmosphère et l'eau qui coule à la Terre primitive. C'est une période aquatique?
Alors, on n'est pas sûr qu'il y ait une période aquatique. Je vais d'abord vous dire comment on a trouvé cette affaire d'argile, parce que c'est peut-être la dernière et peut-être la plus importante des découvertes qu'on a faites, mais qui va quelque part à l'encontre de ce qu'on pouvait avant imaginer de ce qu'était Mars. La première idée qui faisait dire que sur Mars, il y a eu de l'eau dans le passé, c'est simplement que Mars est rouge. Et vous savez bien que si Mars s'appelle Mars, c'est que dans le passé, Mars était assimilé au sang et non pas à l'eau d'ailleurs. Mars, dieu de la guerre, l'horreur. Il a fallu 2 millénaires pour arriver à se sortir de cette image de Mars, planète de la mort, pour que progressivement, au contraire, le rouge ait été assimilé non plus au sang, mais à la rouille, avec ce syllogisme incroyable qui dit « s'il y a de la rouille, c'est qu'il y a de l'eau, s'il y a de l'eau, c'est qu'il y a de la vie ». Syllogisme réel, très biaisé, parce qu'on peut être rouge et rouillé sans avoir de l'eau liquide, et on peut avoir de l'eau liquide sans avoir de vivant. N'empêche que c'est ça qui a porté la connaissance, et en tout cas les recherches martiennes depuis plus d'un siècle, avec cette idée que le fait que Mars soit rouge veut dire qu'il y a eu de l'eau liquide. Et quand on est venu avec nos instruments, on s'est dit « la première chose à faire, c'est d'essayer d'avoir accès à la composition de ce matériau rouge. Si c'est rouge, est-ce que c'est vraiment des oxydes de fer qui seraient ferriques au sens de la rouille? Et est-ce que ce seraient bien des matériaux qui auraient été formés par de l'eau? Eh bien, on s'est aperçu que ce qui fait que Mars est rouge, c'est effectivement qu'il y a une poussière. Cette poussière recouvre une grande partie de la surface, essentiellement les terrains les plus jeunes, pas les terrains les plus anciens. Jeune veut dire depuis maintenant jusqu'en remontant dans le temps plus de 3 milliards d'années. Ça fait 3 à 3,5 milliards d'années que le processus dominant à la surface de Mars, c'est un processus qui effectivement rougit le sol. Mais en même temps, on s'est aperçu que si effectivement, si Mars est rouge, c'est que c'est fait d'oxyde ferrique, et qu'il y a donc un processus d'oxydation du ferreux vers le ferrique, de la rouille, à l'intérieur des roches, ce processus-là, c'est un processus parfaitement anhydre. C'est-à-dire que les roches qui ont été rouillées ne sont pas des roches hydratées. Et contrairement à ce que les gens ont pensé pendant très longtemps, nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas de raison de penser le contraire, je dirais, ce qui fait que Mars est rouge, c'est pas que Mars a été baigné dans de l'eau. Les endroits où il y a actuellement de la poussière rouge, ce sont des endroits où jamais l'eau n'a couru. Et cette oxydation, c'est une oxydation extrêmement lente, elle a opéré effectivement pendant très longtemps, plus de 3 milliards d'années, qui procède uniquement de l'interaction entre le sol et l'atmosphère. C'est une atmosphère extrêmement ténue qu'on a là sur Mars, très ténue puisqu'elle est 100 fois plus faible que cette atmosphère en pression que l'atmosphère de la Terre. Il y a un tout petit peu de vapeur d'eau, extrêmement faiblement. Si toute l'eau se condensait, ça ferait quelques millièmes de millimètres, quelques microns seulement, donc c'est vraiment très peu de choses. Mais suffisamment pour que oxyder cette vapeur d'eau par le rayonnement solaire, il y a un tout petit peu d'eau oxygénée dans l'atmosphère, de vapeur d'eau oxygénée, extrêmement faiblement, des milliardièmes en composition. Mais c'est cette petite, très faible concentration d'H2O2 dans l'atmosphère qui finit par rouiller le sol sur des très longues périodes. Mais c'est tellement long et tellement lent qu'il faut des milliards d'années pour oxyder la surface, mais sur une pellicule qui ne fait pas plus que quelques dizaines de micromètres. Si bien que dès que vous balayez un tout petit peu, vous n'avez plus le sol rouge. Et d'ailleurs, quand vous regardez les traces des rovers américains, comment vous voyez que le rover est passé? C'est que le rover en passant bêche un tout petit peu, remue un petit peu le sol, et en remuant le sol, il remet en surface un petit peu du sol qui est quelques millimètres en dessous, ou quelques fractions de millimètres en dessous, et ce sol est marron, basaltique, non encore oxydé. Pourquoi tout Mars n'est pas oxydé? Mais parce qu'il y a des terrains plus hauts et plus bas en altitude, et que les hauts plateaux cratérisés sont suffisamment hauts pour que la pression partielle de l'atmosphère soit faible, si bien que l'oxydation n'a pas encore été capable d'entièrement oxyder.
Et pour revenir à nos argiles?
Alors, j'en reviens aux argiles. On s'est aperçu donc qu'il y a un processus d'altération à la surface qui opère depuis longtemps, mais ça c'est un processus sans l'eau. Et au même moment où on avait la capacité donc de voir si une roche est hydratée ou pas, on s'est dit, ben voilà, partout où on voit cette altération, on ne trouve pas d'eau. Est-ce que pour autant il n'y a pas de roche hydratée à la surface? Et on a fait la carte, parce que maintenant on a une couverture globale de la surface depuis 3 ans, on a fait la carte de tous les endroits où on voit des roches hydratées. Est-ce qu'on voit des roches hydratées? Et la réponse est oui. On trouve bien des roches hydratées, mais à nouveau pas du tout là où on les attendait, pas du tout dans cette poussière rouge. Et on n'en trouve que deux sortes de roches hydratées, des argiles et des sulfates. À vrai dire, avant même d'arriver aux argiles, mais je vais arriver à la question des argiles, ce qui a étonné beaucoup de gens, c'est qu'on ne trouve pas de carbonate. La raison est simple, et je vais dire un mot là-dessus, parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre pourquoi la question des argiles est importante. Il y a une atmosphère extrêmement ténue sur Mars actuellement, on a dit un centième de la pression terrestre. Or, on a toutes les raisons de penser que quand cette planète s'est formée, l'atmosphère était majoritairement et massivement faite de gaz carbonique. Pourquoi le gaz carbonique aurait disparu de cette planète? En fait, sur Terre, c'est pareil. Sur Terre, il y a très peu de gaz carbonique. Il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'un bar, puisqu'on a un bar d'azote et d'oxygène, mais très peu de gaz carbonique. Et pourtant, quand la Terre s'est formée, il y avait plusieurs dizaines de barres de CO2, exactement comme sur Vénus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le gaz carbonique a disparu sur Terre? Parce que sur Terre, l'eau était stable à l'état liquide depuis plus de 4 milliards d'années, et que le gaz carbonique, on le sait bien, dès qu'il y a de l'eau, se dissout dans l'eau, c'est pour ça qu'on a des boissons gazeuses. Et une fois que le gaz carbonique s'est dissous dans l'eau, s'il y a des cations, comme du calcium, il précipite sous forme de carbonate.
Donc les falaises d'Etretat, c'est du carbone.
Les falaises d'Etretat, la réserve terrestre de gaz carbonique, ce sont ces énormes massifs de calcaire partout. Tout le calcaire que l'on voit, Etretat, la Champagne, les Baux-de-Provence, les Alpilles, tout le bassin méditerranéen, ce sont les réserves de gaz carbonique initiaux, plusieurs dizaines de barres précipitées. Et c'est pour ça que sur Terre, d'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire à penser, c'est que la précipitation du gaz carbonique sous forme de carbonate, c'est un processus qui est incroyablement efficace, puisque, qui a d'ailleurs été très aidé par le vivant dans l'eau de mer terrestre, 99,99% du gaz carbonique a disparu de l'atmosphère, a été piégé dans les carbonates. La quasi-totalité. Mais tout est dans le quasi, parce que si tout avait été disparu, si tout le CO2 avait disparu, la température à la surface de la Terre serait en dessous du zéro degrés Celsius. Et en fait, l'eau est gelée et on ne serait pas là pour en parler.
Donc ne pas trouver de carbonate sur Mars, ça pouvait vouloir dire qu'il n'y avait pas eu d'atmosphère avec du CO2 et donc une, un effet de serre qui permette des conditions...
Les gens se sont dit, s'il n'y a plus de CO2 sur Mars, c'est que le CO2 a été dissous dans l'eau. Et donc si on trouve du carbonate sur Mars, ça nous dira deux choses. Un, il y avait bien du gaz carbonique. Et deux, il a précipité dans de l'eau, donc il y a eu de l'eau. Et de même que sur le bassin méditerranéen, on récupère... l'information primitive, c'est-à-dire la mer était là en voyant les carbonates. Si on trouvait des carbonates sur Mars, on se dirait, ben voilà, c'est là qu'il y avait de l'eau. Et donc, exactement comme sur Terre, les fossiles, il faut les trouver dans les carbonates pour cette raison-là, puisque ça a piégé les espèces animales dans l'eau elle-même. C'est là qu'on aurait trouvé les micro-fossiles primitifs. Première grande découverte, on ne trouve pas de carbonate. Et on a de bonnes raisons de penser qu'il n'y a jamais eu de formée. Donc, il n'y a plus de gaz carbonique à la surface de cette planète. Mais s'il n'y a plus de gaz carbonique, c'est que le gaz carbonique a disparu de la planète et n'a pas été précipité sous forme de roches sédimentaires. En d'autres termes, le fait qu'on ne trouve pas de gaz carbonique piégé sous forme de carbonate met en cause le fait qu'il ait pu jamais y avoir un océan sur Mars. Et effectivement, on a toutes les raisons de penser qu'il n'y a jamais eu d'océan sur Mars. Alors, pourquoi est-ce qu'on a trouvé deux autres familles de roches hydratées, des sulfates et des argiles ? Et ça, c'est vraiment très intéressant. La première chose qu'on a trouvée, c'est des sulfates, au même moment où Opportunity, l'un des deux rovers américains, en a trouvé dans un terrain très particulier. Quand les Américains ont trouvé des sulfates, dont d'ailleurs ils n'ont pas pu montrer que c'était des sulfates hydratés parce qu'ils n'avaient pas les instruments pour le voir, mais nous, depuis l'espace, on a montré que c'était bien, on a vu les mêmes, on a montré que c'était bien des roches hydratées, ils ont crié victoire, ça faisait 20 ans qu'ils cherchaient la preuve que cette planète a bien vu de l'eau liquide, la preuve c'est que des roches devraient être des roches hydratées. Ils ont trouvé des sulfates qui se trouvaient effectivement être des sulfates hydratés, mais en même temps on a montré qu'en fait ces sulfates qui sont des sels ne démontrent pas que l'eau est restée stable à l'état liquide longtemps sur cette planète. Et en fait on a toutes les raisons de penser que quand les sulfates se sont formés, l'atmosphère était déjà très ténue, trop faible pour que l'eau puisse rester longtemps à l'état liquide. Il y a eu des inondations qui ont apporté de l'eau en surface et qui ont précipité des sels qui sont ces sulfates, mais en même temps que ça a déposé les sulfates, l'eau a disparu. Et en disparaissant de l'atmosphère, a été soufflée et l'atmosphère a disparu de la même manière. Donc les sulfates ne disent même pas que de l'eau était stable à l'état liquide. Et c'est là que arrivent nos argiles. C'est que dans d'autres endroits, dont on a pu montrer que ce sont des endroits qui sont très différents de tous ceux où on a vu et la poussière rouge et les sulfates, ce sont des terrains très anciens, bien plus anciens que les terrains où on a trouvé ces deux formes d'altération que sont les sulfates et les oxydes ferriques, on a trouvé ces fameuses argiles hydratées. Et ça, c'est tout à fait passionnant parce que pour former une argile, alors que pour les sulfates, à nouveau, on peut très bien avoir de l'eau qui arrive et qui, en même temps, s'évapore et va laisser un dépôt sous forme de sel sulfaté, une argile, ça ne peut pas se faire comme ça. Une argile exige pour se former, vraisemblablement, on peut peut-être penser à des mécanismes plus rapides, mais très vraisemblablement, en tout cas avec l'expérience terrestre que l'on a, une argile exige que de l'eau, pendant longtemps, perdure à la surface. Il faut lessiver, laver longtemps une roche magmatique pour la transformer. Ce sont des silicates difficiles à hydrater. Pour faire une argile, si vous avez une argile quelque part, c'est que de l'eau a résidé longtemps. Longtemps veut dire pas forcément des millions et des milliards d'années, mais en tout cas, certainement des milliers, des dizaines de milliers, et probablement donc des millions et des milliards d'années. Donc, le fait de trouver des argiles change tout quelque part dans l'histoire parce que tout d'un coup, ça nous dit s'il a pu y avoir dans le passé un moment où l'eau pouvait rester à l'état liquide pendant une longue période.